Dialogue entre Congolais présenté par Kelly Coupé.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Nous nous excusons pour ce petit retard avec lequel nous commençons cette émission. Élections législatives en RDC, plusieurs cas de fraude dénoncés par certains candidats dans les opérations de compilation des résultats à travers le pays. Comment analyser cette situation et quelles conséquences pourrait-elle avoir sur la crédibilité des élections? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 19 décembre 2011. Pour en parler, je reçois en invité unique Jacques Ndjoli, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Ndjoli, bonsoir. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Aline Riziki Kimongue d'Uvira au sud Kivu. Je pense que les irrégularités que l'on enregistre dans la compilation des élections législatives nationales sont à mon humble avis les conséquences d'une élection précipitée, sans le calcul préalable des risques qui pourraient en découler. Je me demande maintenant quelle crédibilité on accordera à cette dernière. Merci de nous suivre à Kalemie au Katanga sur la 105.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Trois semaines après les élections législatives sur toute l'étendue de la RDC, des voix s'élèvent pour dénoncer des cas de fraude constatés dans les opérations de compilation des résultats à travers le pays. Parmi les faits relevés figurent entre autres la falsification des procès-verbaux et la corruption des agents des centres locaux de compilation des résultats. Je vous propose d'écouter tour à tour les témoignages de certains candidats députés nationaux au téléphone de Samuel Kachak.
Omer Mijimbu Chakalao, candidat député national à la circonscription électorale de Tikapa Kamonya. La circonscription de Kamonya avait 1400 bureaux de vote. On a réduit à 900. Et une semaine, ils ont fait la compilation de 300 bureaux sur 900. Mais après, le membre de la CENI avait leur propre liste en poche. Sur 900 bureaux de vote, on a compilé 300 bureaux. Ils ont affiché les noms. On met plus de toutes les procédures prévues par la loi. Et dès qu'ils ont affiché la liste à minuit, tous les bureaux de la CENI, Kamonya a pris fuite vers 1h du matin pour se rendre à Tshikapa.
Niki Katumwa Mukalai, candidate dans la circonscription électorale de Kalemie dans la province du Katanga. La situation ici chez nous à Kalemie est catastrophique. Les élections ne sont pas crédibles. On a connu plusieurs cas de falsification des résultats. Et à titre d'exemple, la personne obtient 7 voix, mais dans la compilation, on falsifie le PV, on lui donne 51 voix. Dans un autre centre, la personne obtient une voix, on lui donne 17 voix. Vous voyez que c'est catastrophique. On ne peut pas faire confiance à la CENI, ainsi qu'à tous les membres de la CENI ici à l'ENI. Et nous ne pouvons pas faire foi aux listes qui sont affichées parce que c'est une liste frauduleuse.
Honorable Bahati Lukwebo, je suis candidat numéro 2 pour le compte du parti AFDC dans la circonscription électorale de Kabare au sud Kivu. Comme vous le savez, j'ai eu à dénoncer certains cas de fraude, vraiment une fraude massive, mais également on a tout fait pour que nos témoins ne puissent pas accéder au bureau de vote. Voilà pourquoi, dès le premier jour au matin, le 28 novembre, j'avais dénoncé ce cas-là.
Honorable Moutko Wouli Mouré-Charles, candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale de Arou, dans la province orientale. Ces irrégularités que j'ai constatées au niveau du centre local de compilation des résultats. Il y a d'abord falsification des résultats en faveur de certains candidats. Cette tricherie est constatée par mes témoins au niveau de la falsification des chiffres. À titre d'exemple, dans le centre, à l'école primaire Maracha, où on a inscrit 403 voix au lieu de 40 voix qui sont inscrites sur le PV de Puyema. Vous voyez que c'est une flagrance. Et ce cas est légio. L'autre aspect, c'est l'aspect de la tricherie, caractérisée par le bourrage des urnes dans certains bureaux de vote ici chez nous à Arou.
C'était là les témoignages de certains candidats députés nationaux. Monsieur le vice-président de la CENI, parlons d'abord actualité. La CENI débute ce lundi la publication des résultats partiels des législatives. Il faut le dire, souffrant quand même des contestations d'un peu partout à travers le pays. On parle surtout des bourrages des urnes. Comment vous pouvez justifier cette décision de la CENI de commencer la publication des résultats partiels malgré les irrégularités que l'on dénonce?
Merci beaucoup, madame. La CENI a 169 centres locaux de compilation des résultats. Certains centres CELSER ont terminé le travail et ont fait parvenir au bureau de la CENI le résultat de ce travail. Il y a des CELSER qui ont fait le travail et il n'y a pas de contestation. Et le bureau de la CENI est en train d'examiner actuellement ce travail-là. Si on constate qu'il n'y a pas de réclamation, si on constate que les fiches de compilation et les PV subséquents sont bien signés par les témoins, et ce n'est qu'alors et alors seulement qu'on peut, n'est-ce pas, proclamer les résultats de ces centres locaux de compilation. Je tiens à rappeler que le CELSER sont, au regard de la loi, des unités techniques et opérationnelles de la CENI. Et que, nonobstant le fait d'afficher les résultats, le bureau de la CENI, qui, n'est-ce pas, authentifie ses résultats par la publication provisoire, est le seul organe juridiquement apte à valider les résultats. Donc, si nous estimons, par des éléments de cohérence interne, ou des accusations fondées, ou de rumeurs qu'il y a des fraudes, nous nous réservons le droit de ne pas publier ces résultats provisoires, de demander le récompte ou la révision par la présence soit des membres du bureau ou par le secrétariat exécutif provincial.
Alors à ce jour, monsieur le vice-président, vous avez les résultats de combien des circonscriptions ou des centres de compilation?
Il y a plus ou moins 66 CELSER qui ont terminé le travail. Nous avons, sommes en possession de plus ou moins 30 CELSER, mais les bureaux est en train de se réunir maintenant. J'ai dû interrompre, n'est-ce pas, la réunion pour venir répondre aux questions des auditeurs.
Merci.
Ce n'est qu'à l'issue de cette réunion, si nous constatons que toutes les pièces exigées par la loi sont dans le dossier, ce n'est que à ce moment, et alors seulement à ce moment-là, que nous pouvons publier les résultats dits partiels.
Alors, pour les résultats que vous avez commencé à publier aujourd'hui, si je vous comprends bien, il n'y a pas eu contestation. Donc, tout est OK pour les résultats d'aujourd'hui.
Le travail est en train d'être fait. Il y a essentiellement des CELSER où on a un candidat, ou du moins un siège, je voudrais dire, ou deux sièges, où ça ne pose pas de problème. Mais encore, il faut avoir toutes les pièces qui garantissent, n'est-ce pas, la validité et la crédibilité de ces résultats.
Monsieur le vice-président, vous avez suivi les témoignages des candidats députés nationaux. Comment vous réagissez à toutes ces plaintes soulevées par ces candidats? Ils sont nombreux à travers le pays.
Oui, la plupart de ces candidats que vous avez reçus nous ont saisis, parfois aussi par téléphone, ou nous ont écrit. La première des choses que nous demandons à tous ces candidats, c'est d'être dans la culture de l'écrit. Il faut toujours écrire. Il faut écrire, si vous êtes à l'antenne, réserver copie au CEP, donc au secrétaire exécutif provincial, et au bureau de la CENI, pour que nous soyons informés de tous les faits générateurs des désordres. Et sur ce point-là, le bureau de la CENI, malgré ses difficultés, malgré l'immensité, est en train de se déployer pour aller régler un certain nombre de problèmes là où c'est vraiment nécessaire que nous nous déployons. Sinon, les CEP ont été instruits pour suivre cette question. C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'à un certain moment, nous avons demandé qu'on puisse suspendre le travail pour permettre justement des recadrages techniques, je dirais même moraux des agents, et surtout leur rappeler les procédures en termes, n'est-ce pas, notamment de la régularité de pièces qui doivent suivre les dossiers. Et dans cette perspective, nous sommes convenus avec la MONUSCO que la MONUSCO puisse être dans tous les CELSER si c'est possible, pour garantir par sa présence la crédibilité et la régularité. De sorte que nous puissions avoir toutes les signatures sur les PV et les fiches de résultats et qu'on puisse afficher. Mais là encore, il faudra que les compatriotes comprennent. Lorsque le candidat instrumentalise le jeune, la population, pour contester tout résultat, même là où ils savent qu'ils n'ont pas réussi, et transformer le ville et les circonscriptions en champ de bataille, et que les agents de CELSER, dont je ne dis pas qu'ils sont tous de saints, doivent être pris en otage et être mis en insécurité, dans ces conditions, il est difficile, n'est-ce pas, qu'on puisse afficher les résultats. Dans ce sens, je voudrais dire que la CENI, c'est vrai, est l'organe technique d'organisation des élections. Mais s'il n'y a pas l'État dans les circonscriptions où l'administrateur du territoire est un défaillant, où il n'y a pas de services de sécurité, de police pour garantir la sécurité et la sérénité du travail, il va de soi que les agents sont obligés parfois de se soustraire de manière clandestine dans certaines villes ou alors se livrer à la pâture de ces vautours qui cherchent à tout prix à garder le pouvoir.
Alors, monsieur le vice-président, on va prendre un cas. Je prends le cas de Kamona au Kasaï occidental. Vous dites que vous avez été saisi par téléphone par ces candidats députés. Sur 900 bureaux de vote, on a compilé les bureaux, les résultats de 300 bureaux. Est-ce que vous êtes au courant de cela aussi et pourquoi cela a été fait comme ça?
Ce sont des éléments signalés par, n'est-ce pas, l'honorable Chakalaou. Madame la deuxième rapporteure adjointe va se rendre demain à Kananga, où déjà un grand travail a été fait, et je dois le dire, avec le concours de la MONUSCO. Nous avons pu, par exemple, rectifier et suivre la situation de Dibelengue. Nous espérons que la situation de Kananga, qui a été corrigée, va être consolidée dans ce sens-là, avec un travail d'appui de la MONUSCO et du CEP pour essayer de voir. Madame, vous savez, ce n'est pas la CENI n'est que le reflet de structures mentales et infrastructurelles de ces pays. La tricherie, la falsification, la corruption, les rumeurs sont entrées dans nos mœurs, de sorte que nous ne pouvons pas nous mettre derrière chaque opératrice de saisie ou chaque agent qui, n'est-ce pas, sont soumis à des pressions diverses, des pressions des autorités.
Pressions de la part de qui?
Des pressions de la part des autorités politico-administratives locales.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas reçu une formation, ces agents de la CENI, monsieur le vice-président?
Ils ont reçu une formation, mais les menaces de la part des agents des services de sécurité et des autorités publiques qui mettent, n'est-ce pas, à mal le comportement de nos agents, les corrupteurs, ceux qui veulent à tout prix garder les sièges, qui proposent à ces jeunes gens qui, à la fin de leur service, auront peut-être 400 ou 500 dollars, mais qu'on leur propose des montants exorbitants. Mais nous tenons à dire à nos agents que ceux qui tomberont dans le piège, n'est-ce pas, de ces vautours, ils seront poursuivis. Et la CENI sera sans pitié. Les agents de Nirangongo, qui ont été pris dans le même siècle, le 9, sont aujourd'hui poursuivis. De même, les députés qui s'hasardent à proposer de l'argent à nos agents, eh bien, ces députés eux-mêmes, lorsque sera prouvé, eh bien, ils seront tout simplement invalidés. De même aussi, ceux qui se livrent à des actes de violence, nous apprenons à Ikela, par exemple, qu'on s'est attaqué au chef d'antenne, ces personnes qui s'attaquent aux agents et aux services matériels de la CENI seront invalidés. La CENI ne peut pas proclamer quelqu'un vainqueur alors que cette personne s'est attaquée à elle et à ses structures.
Monsieur le vice-président, vous avez parlé de la MONUSCO, que vous avez associé à la MONUSCO dans le travail que vous faites. Mais pourquoi seulement maintenant que vous associez la MONUSCO? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport au travail de la CENI que vous vous êtes dit qu'il fallait associer la MONUSCO pour plus de crédibilité?
Tout à fait. Il y a eu une action des observateurs internationaux, les uns motivés peut-être par le souci que nous puissions, n'est-ce pas, respecter les standards internationaux, mais il faudra savoir aussi dans quelles circonstances, dans quel contexte on a travaillé. La CENI a commencé son travail au mois de mai et n'avait eu que 6 mois pour planifier ses élections. D'où il y a certaines imperfections. Mais au-delà de cela, les observateurs sont des observateurs et nous comprenons leurs préoccupations. Mais au-delà, ces élections ont été organisées par les Congolais avec des difficultés qui sont les nôtres. Nous avons estimé, puisque la MONUSCO est un partenaire avec lequel nous avons été ensemble, notamment dans les déploiements logistiques, et il est important qu'on sache que nous travaillons ensemble. Je voudrais saisir cette opportunité, parce que parfois, on a parlé des résultats de la présidentielle. Mais vous savez, au niveau du Centre national de traitement, nous travaillons à binôme. Nous avons les agents de la CENI et les agents de la MONUSCO. Donc, il ne faut pas qu'on puisse croire que la CENI travaille en vase clos. Les experts qui travaillent au niveau du Centre national de traitement sont des agents MONUSCO et nous sommes avec les projets PNUDPAS. Cela ne veut pas dire que nous n'assumons pas nos responsabilités dans nos choix.
Et dans les centres de compilation, c'est la CENI seule.
Dans les centres de compilation, nous étions seuls. Et pour améliorer la transparence, nous avons estimé, et la MONUSCO est d'accord. Nous espérons que la MONUSCO pourra se déployer dans le temps, dans les 169 CELSER. Mais en tout état de cause, lorsque nous recevons des contestations, même si les résultats étaient affichés, nous nous réservons en tant que bureau le droit de rectifier, de réviser avec les CELSER, parce que sur ce point-là, je voudrais informer l'opinion qu'il y a 4 plis. On peut falsifier avec le pli destiné au CELSER, mais il y a 3 autres plis. Un pli de PV qui sont destinés au secrétaire exécutif provincial, un autre pli d'intégrité destinée au bureau de la CENI et le pli qui sera destiné à la Cour suprême. Donc nous avons le moyen de trouver la cohérence. Beaucoup d'opératrices de saisie, opérateurs de saisie, lorsqu'un candidat obtient par exemple 16 voix, il ajoute 0 et la personne a 160 voix et tente d'éroder l'ensemble du système. Mais lorsqu'on constate ces incohérences, en recourant à d'autres plis, nous pouvons retrouver la cohérence.
Alors, Monsieur le Vice-Président de la CENI, Claude de Kinshasa, qui vous pose cette question. Monsieur le Vice-Président, êtes-vous fier du travail fait par votre institution avec tout ce que l'on déplore comme irrégularité? Et la sous-question, quelle était l'intention de la CENI en refusant l'accès aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, dans les centres locaux de compilation?
Je voudrais qu'on me donne un centre local de compilation qui a refusé les observateurs. Il y a effectivement un problème.
Dans le rapport de l'Union européenne, on dénonce ça.
Madame, l'Union européenne n'a pas le monopole de la vérité. L'Union européenne n'a pas le monopole de la vérité. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles. Nous reconnaissons les faiblesses de ce travail, mais nous assumons cette responsabilité. Lorsque l'Union européenne veut accéder au centre national de traitement, dans quel pays du monde ça s'est fait? On nous demande de publier le résultat bureau par bureau. Nous l'avons mis à la disposition de l'opinion. Le président de la CENI ne peut pas se mettre devant un micro pour lire le résultat des 64 000 ou 65 000 bureaux de vote. Il faut que les gens soient aussi sérieux de part et d'autre.
Alors, Claude vous demande si vous êtes fier du travail fait par la CENI.
Je ne suis pas très fier de ce travail, mais il faudra avouer que sur les 65 000 bureaux de vote, nous avons produit le travail d'au moins 60 000 bureaux sans problème. Il y a eu plus ou moins quelques 4 800 bureaux de vote qui ont des problèmes. Ça fait un pourcentage de 7%. Et ces 7% ont-ils un effet sur l'ensemble du travail? En matière de perception subjective, oui. Ma matière technique, 7% n'érode pas 100%.
Monsieur Jacques Njoli, vous avez annoncé vendredi dernier la suspension des opérations de compilation dans les centres locaux. Pourquoi? Et cela va durer jusqu'à quand?
Nous avons arrêté à un certain moment le travail pour essayer de recadrer les choses, notamment à Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, le travail de ramassage s'est fait dans un climat de suspicion, peut-être légitime. après les accusations de tricherie, les menaces, les agressions sur les agents, tout le monde est allé jeter les colis pratiquement à la FIKIN. Et directement après, il y a eu la pluie. Donc c'est une sorte de capharnaüm qu'il y a eu à la FIKIN qui a fait qu'on a perdu 2000 colis, 2000 plis.
Une des organisations de la CENI?
Non, les conséquences, n'est-ce pas, créées par les climats de violence. Vous savez que la campagne électorale s'est faite dans un climat de violence et s'est terminée dans un climat de violence. Et ce climat a déteint sur l'organisation du scrutin elle-même. Nous assumons les dévoiements de notre déploiement qui a connu un jour de retard et de sorte que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas pu voter ou ont voté dans des conditions horribles ou n'ont pas retrouvé leur bureau. Ce qui a créé un climat de désordre que nous assumons et qui a des répercussions sur le plan des ramassages et sur les travaux de compilation. Donc lorsque les observateurs parlent de 2000 plis perdus, c'est nous qui leur donnons ces chiffres-là. Et nous en sommes conscients. Ainsi, dans ce travail-là, il s'est posé énormément de problèmes. 2000 colis pour une ville comme Kinshasa, c'est quand même important, c'est 20% de
Le travail va reprendre quand?
Le travail a repris. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a commencé le travail. Le rythme de croisière va continuer. Dans les autres provinces où il n'y a pas eu de problème, les centres locaux de compilation terminent lentement et doucement le travail. Mais il y a des coins où il y a des contestations. Nous continuons, comme je l'ai dit, à les examiner pour que nous puissions remettre à la population un travail acceptable le 13 janvier.
On Ituri, le chef d'antenne de la CENI du territoire de Djougou est déféré au parquet des grandes instances de Bounia. Jérôme Djéo est accusé d'avoir organisé la fraude en faveur de certains candidats à la députation nationale de cette circonscription électorale. Une dizaine des candidats des partis politiques, de la majorité et de l'opposition ont déposé une plainte contre lui vendredi dernier. Ils exigent une enquête pour rétablir la vérité des urnes. Le point avec vous, Isaac Remoyope.
10 griefs sont portés contre les chefs d'antenne de la CENI. Ninjougou, Jérôme Dejongona, qui est affecté à Ango dans le district d'Ibazuele. Il s'agit de certains faits retenus contre lui qui frisent la tricherie. Les candidats plaignants indiquent qu'au centre des votes de Joe et Torges, les kits électoraux ont été acheminés par les canaux rapides du candidat Tchédia Pataye, ministre provincial des travaux publics. Ils ajoutent que les plis des votes de ces centres ont été convoyés par les chefs d'antenne de la CENI lui-même jusqu'au centre des compilations à Nizi sans la présence des témoins. La même scène s'est déroulée au centre des votes de Djiba avec les candidats d'Ardabello. Selon ces candidats, il y a eu également fraude et bourrage des urnes dans une vingtaine de bureaux qui n'étaient pas opérationnels les jours des votes, notamment à Laoudjo, Ouazabo et Yedi. Ils accusent également ces responsables de la CENI d'avoir refusé d'affecter les agents électoraux formés dans les différents bureaux des votes au profit de ses proches et connaissances pour organiser la fraude. Contacté le procureur près, le parquet d'Ituri affirme être saisi du dossier et attend l'ouverture des enquêtes par une commission mixte. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Zachary Moyopé, monsieur le vice-président. Brève réaction par rapport à ce reportage que nous venons de suivre.
Je suis très heureux que le candidat de la majorité parle de la fraude. Pourquoi il n'en a pas parlé avant la publication des résultats de la présidentielle? Vous savez, c'est très facile lorsque on est soi-même impliqué. Moi, j'ai dit qu'il y a des irrégularités. Je ne dis pas que les agents de la CENI ne se livrent pas à la fraude. Vous savez, aujourd'hui à Ilebo, il y a des agents qui ont fui parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, perçu de l'argent de la part d'un certain nombre de candidats. La tentation de la corruption structurelle existe dans ces pays. La CENI n'est pas l'outil de lutte contre la corruption. Nous recrutons les agents et nous les tentons de les former pour qu'ils soient intègres. Malheureusement, il y a des failles. Mais nous réglons cas par cas. Madame, vous voyez, j'ai en face de moi un tableau, n'est-ce pas, de monitoring des contestations pour les élections. Nous enregistrons tous les cas. Et comme je vous ai dit, nous allons examiner cas par cas. Mais très souvent, lorsque le processus avance, les agents sont contents. Mais lorsqu'on affiche, eh bien, tout le monde dit qu'il y a eu tricherie. C'est cela aussi le problème. Il faut aussi la bonne foi. Mais il était fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans le centre local de compilation. Mais il faut examiner cas par cas. Je suis heureux, par exemple, parce que peut-être demain on va commencer à les annoncer. Il y a des candidats qui nous ont écrit pour informer qu'ils acceptaient leur défaite dans telle ou telle circonscription. Je crois qu'il faudra aussi qu'on comprenne que la culture démocratique ne doit pas consister à simplement à gagner. C'est un jeu où il doit y avoir un gagnant et un vainqueur et un perdant, et il faut que les gens se préparent. Il y a beaucoup de députés qui croient que la fonction de député c'est une carrière, c'est un mandat, et si à la fin de ce mandat de 5 ans, la population dit que vous n'avez pas gagné, eh bien il faut l'accepter aussi. Mais il est vrai qu'il y a des fraudes, qu'il y a des tricheries, et nous devons le combattre.
Et qu'est-ce que vous faites pour décourager tous les potentiels tricheurs ou même tous les agents de la CENI qui favorisent la fraude?
Les agents de la CENI qui seront attrapés en flagrant délit, nous sommes heureux qu'il y a des résistances. Je suis heureux de féliciter par exemple un agent de la CENI qui est parti à Ingendé, à qui on a offert 6 000 $, qui a refusé et qui est venu dénoncer. Il y a des cas de tentatives de corruption. Il y a des marchés qui se créent autour de nos centres locaux de compilation par ceux-là même qui doivent donner, n'est-ce pas, l'exemple. Donc, cet agent de la CENI qui sera attrapé, eh bien, sera traduit par la justice. Quant aux opérateurs politiques, conformément à la loi électorale, qui veulent abuser de la corruption, nous allons aussi, non simplement les invalider, mais les traduire devant la justice. Ceux qui utilisent la violence pour casser nos bureaux seront aussi invalidés.
Alors les auditeurs sont nombreux à nous écrire. C'est par exemple Jeannot Kapachi de Massina Kinshasa qui dit ceci. La MONUSCO a plusieurs fois répété à travers son porte-parole qu'elle n'avait pas mandat de certifier les résultats en RDC. En l'associant à ces opérations, la CENI voudrait-elle se crédibiliser ou donner à la MONUSCO un mandat qu'elle n'a pas? Pourquoi avoir attendu maintenant pour les législatives et ne l'avoir pas associé aux résultats de la présidentielle, monsieur le vice-président?
Mais il n'appartient à la MONUSCO de répondre à cette question et pas à moi à répondre à la question de la MONUSCO. La MONUSCO est un partenaire avec lequel nous sommes engagés. La MONUSCO a fait énormément du travail dans le travail logistique, mais nous travaillons en binôme tant au niveau du Centre national de traitement, de la direction des opérations, de la direction de planification avec la MONUSCO. Et si on estime qu'il était important que viennent, n'est-ce pas, en rescousse, nous ne l'avons pas d'inconvénient. Il y a eu même un accord du gouvernement avec un certain nombre de partenaires pour qu'ils puissent nous aider techniquement. Nous n'avons pas de problème sur ces points-là. Les chiffres, aussi bien de la présidentielle que de législative, sont à la portée de tout citoyen. Et celui qui a des chiffres contraires, qui les amène, mais pas des chiffres manipulés, pas des chiffres tronqués que certaines personnes peuvent utiliser pour désabuser l'opinion. C'est lui qui a le chiffre, qui a déployé 30 000 observateurs, qui nous donne les résultats de ces 30 000 observateurs que nous comparons avec les chiffres que nous avons.
Alors, Léandre Kabimbi de Kolwezi au Katanga, pour ces élections législatives, je suis indigné du fait que ce n'est plus les peuples qui élit les députés, mais bien au contraire les membres des bureaux des votes. Où irons-nous avec cette situation? Devant cette situation, que les députés soient alors nommés carrément au lieu d'être votés par tricherie. Brève réaction.
Oui, je partage la conviction de ces compatriotes. Il y a des personnes qui étaient candidates, qui n'ont même pas fait l'effort pour aller battre campagne et qui ont réservé leurs moyens pour corrompre nos agents. Vous voyez le degré de perversion dans lequel nous sommes arrivés. Donc, quand on dit qu'il faut, n'est-ce pas, faire de la corruption un fléau national sur lequel il faut s'asseoir et combattre...
Et dans ce cas, la CENI va faire quoi?
Mais la CENI essaie avec ses moyens pour lutter contre la corruption. Mais lorsque la corruption s'érige en sport national, comme disent les uns, les copes dans les écoles, dans l'entreprise et autres, la CENI, comme je vous ai dit, n'est pas la structure nationale de lutte contre la corruption.
Et qu'est-ce que vous avez reçu jusque-là comme résultat en luttant contre toutes ces fraudes que l'on dénonce, monsieur le vice-président?
Nous voulons, comme nous faisons le monitoring, chaque fois qu'il y a des actes de corruption, que ces actes-là soient portés à notre, n'est-ce pas, intention. Voilà pourquoi nous avons changé, nous avons pris le risque de changer nos secrétaires exécutifs provinciaux à la veille des élections pour couper un certain nombre de réseaux de clientélisme. Voilà pourquoi nous avons changé même de chef d'antenne. Mais au-delà de cela, de la corruption, il faut parler du tribalisme à outrance. Les gens se font élire simplement dans leur groupement. Et chaque fois qu'on publie les listes de CELSER, on retrouve la tribalité dans ces gens-là. Et ça empêche le travail. Donc, au-delà de la corruption, il y a l'ensemble de maux qui rongent notre société qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans le travail de la CENI. La corruption, l'esprit non démocratique, la violence qui est érigée à mode de règlement des conflits. Lorsque je ne gagne pas, j'amène mes hommes, mes parents avec des machettes pour brûler la CENI. Lorsque quelqu'un de la non originaire n'est pas est candidat ou tente de gagner, eh bien, il faut contester ses résultats. Il y a toute une série, n'est-ce pas, de facteurs et de situations qu'il faut dénoncer, y compris bien sûr la corruption.
Quelles conséquences cette situation pourrait-elle avoir sur la crédibilité des élections? C'est la deuxième partie de notre émission. Je rappelle que Dialogue entre Congolais de ce soir reçoit l'invité unique, le professeur Jacques Ndjoli, vice-président de la CENI. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Aline Riziki Kimong d'Ouvira au Sud qui vous dit ceci: je pense que les irrégularités que l'on enregistre dans la compilation des élections, des résultats des élections législatives nationales sont à mon humble avis les conséquences d'une élection précipitée, sans les calculs préalables des risques qui pouvaient en découler. Je me demande maintenant quelle crédibilité on accordera à cette dernière. Ingénieur Alain Mabandou de Kisangani en province orientale, qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces fraudes et dans la plupart des cas, qui en sont les organisateurs et quelles sont les précautions ou les moyens mis en place par la CENI pour poursuivre tous ceux qui sont corrompus par certains candidats, monsieur le vice-président?
Les conséquences d'une élection précipitée, d'une élection organisée dans un calendrier très contraignant. Lorsque, au mois d'avril, nous consultons la classe politique, le débat c'est qu'il ne faut pas dépasser les délais constitutionnels. Lorsque nous voulons découpler les élections, la classe politique dit pas question, vous devez les organiser au même moment. Et c'est dans ces contextes-là que nous organisons ces élections. Voilà donc les caractères contraignants et que ces compatriotes parlent de précipité. Donc, effectivement, il peut y avoir confusion entre précipitation et vitesse, mais nous reconnaissons que nous avons organisé ces élections dans un contexte très contraignant. Mais, vous savez, une deuxième élection n'est pas facile. En 2006, on a dû, par deux fois, prolonger la transition de 12 mois, 6 fois, donc 6 mois fois 2, pour organiser les élections. Et ces élections de 2006 étaient financées à 80% par la communauté internationale. Je ne voudrais pas ici méconnaître le valeur intrinsèque de l'équipe qui nous a précédés. Donc, cette fois, cette élection est organisée avec le Fonds de la République démocratique du Congo, avec toutes les contraintes que vous savez. Nous avons eu à dépenser pas moins de 350 millions, mais essentiellement financés par le gouvernement congolais.
Et ça aussi, ça justifie toutes les irrégularités que l'on constate?
Non, les irrégularités, c'est un problème organisationnel. Il y a eu des difficultés, certes, dans la maîtrise de fichiers, dans la cartographie, dans le déploiement, dans l'organisation du scrutin, dans le traitement des dossiers, ça c'est évident, mais faut-il dire que ce sont des élections crédibles ou non crédibles, je crois que chacun de nous a ses conclusions. Mais j'aurais bien voulu que celles qui sont destinées de distribuer le point aujourd'hui en tant qu'observateurs nous apportent leur aide, n'est-ce pas? En termes d'aide, il y a des États qui n'ont donné qu'un 1%. C'est facile aujourd'hui d'aller devant la télévision dire que ce sont des élections mal organisées.
Mais vous-même, comment vous jugez ces élections, crédibles ou pas crédibles?
Des élections très difficiles, très difficiles. Il faut comparer. Les deuxièmes élections sont toujours difficiles. Vous pouvez faire la comparaison avec les autres pays d'Afrique centrale. Eh bien, une élection traduit toujours l'état organisationnel d'une république ou d'un pays. Vous ne pouvez pas avoir des élections dirais-je, spéciale dans un pays qui a lui-même des difficultés. Il faut faire toujours la corrélation.
Alors, je crois que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que c'était une élection très difficile, crédible ou pas crédible.
Crédibilité, c'est un problème de subjectivité. Si je vous dis que pour moi c'est crédible, telle organisation dira non crédible. Mais ce sont des élections très difficiles.
Alors, Goï Serge de Lubumbashi au Katanga dit ceci par rapport à toute la situation des fraudes qui se passent dans presque tous les CLCR, les responsables de la CENI vont-ils encore nous parler de l'inexpérience et l'immaturité de leurs agents? Ou c'est maintenant l'ingérence des politiques?
D'abord, je suis désolé de ceux qui ont fait ces communiqués pour dire qu'il y avait une expérience ou une immaturité. Nous avons fait les élections avec les moyens qui sont les nôtres, avec les résultats qui sont ceux-là. Je vous ai dit que nous avions plus ou moins 64 685 bureaux de vote. Plus ou moins 60 000 bureaux ont fonctionné normalement. Il y a un seul centre local de compilation qui n'a pas donné les résultats à Kiri. Et je crois que nous avons donné les résultats que nous avons donnés. Maintenant, nous sommes en train de travailler. Nous allons juger, pour ceux qui veulent juger de la crédibilité ou de la non-crédibilité à la fin. Mais il faut savoir que ce n'est pas la CENI qui pousse les gens aller instaurer la corruption en sport national. Ce n'est pas la CENI qui pousse les autorités publiques, les unes comme les autres, à déstabiliser le travail de la CENI. Mais nous reconnaissons qu'il y a des irrégularités. Mais est-ce que toute irrégularité est une fraude? Ça, c'est un autre pas qu'il faut franchir.
Les réactions, il y en a beaucoup, en tout cas, professeur Jacques Njoli, chef des travaux Jean-Bertrand Nibiko de Mbandaka à l'Équateur. Cela est le résultat de l'impunité. Certains fraudeurs savent pertinemment bien qu'ils ne seraient pas sanctionnés car ils ont des parapluies. Quant aux conséquences, elles sont nombreuses, notamment le discrédit des élections de 2011, tant sur le plan interne qu'externe, la consécration de la tricherie et la fraude comme moyen pour réussir, la frustration de la population par le fait de voir des personnes qui n'ont pas été élues par elles puissent les représenter à l'Assemblée nationale, l'arrêt de l'élan démocratie de la population. Katsongo de Goma au Nord Kivu dit ceci: j'appelle les dirigeants de la CENI à démissionner pour avoir mal organisé ces élections, trop de tricherie à la législative. Pour cautionner la tricherie de la présidentielle, nous n'avons plus confiance en la CENI. Monsieur le vice-président, comment vous réagissez?
Je remercie le chef des travaux Mibeko pour son analyse, mais vous savez, la démocratie, ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas un processus, c'est une expérience. Ce n'est pas un événement. Nous avons eu l'élection en 2006. Vous savez, en ce qui concerne par exemple les référendums, il y a des gens qui s'enrôlaient les jours où on votait sur les référendums. Nous avons une élection en 2006 qui nous a donné, n'est-ce pas, les institutions qu'on connaît, mais les gens oublient qu'après la publication de ces résultats, il y a eu des tirs, des contestations ici. Et aujourd'hui, nous avons une deuxième élection, ce qui est une nouvelle expérience, cette fois menée par les Congolais. Nous allons tirer les leçons. À la fin de ces processus, nous avons pris des options. D'abord, une équipe est en train d'étudier toutes les observations qui nous ont été faites, aussi bien par les observateurs nationaux et nationaux. Il y a des mesures correctives, comme je viens de vous le dire, immédiates. Notamment, nous avons dû arrêter à un certain moment le travail pour accepter la présence de la MONUSCO. Nous avons changé un certain nombre d'agents, notamment dans les CLCR de la ville de Kinshasa. Il y a d'autres mesures qui vont suivre, notamment l'évaluation globale de ce que nous avons fait. Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre à perspective des prochaines élections? Alors, ce qui appelle à la démission, qui se tranquillise, lorsque ce devoir de démission se posera, eh bien, nous l'assumerons.
Théo Kalongi de Bamenda au Cameroun dit ceci: pourquoi se plaindre maintenant au sujet des fraudes? Ce qui s'observe maintenant dans les législatives et la continuité de ce qui a commencé, caractérisé par la tricherie, la fraude et la corruption comme mode d'accession au pouvoir et également comme mode de gestion du pays. Monsieur Jack Joly, vice-président de la CENI, quelles conséquences cette situation pourrait avoir sur la crédibilité des élections? Vous-même, en tant que vice-président de la CENI, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité des élections?
Madame, moi, je ne suis pas un distributeur de points tapis comme observateur dans un coin. Moi, je suis vice-président de la CENI. J'assume les faiblesses qui ont été dénoncées. Je suis en train de faire de mon mieux avec les autres membres pour corriger et avoir des élections législatives où nous devons avoir un parlement le plus représentatif de la population, parce que nous devons avoir des autorités légitimes, c'est-à-dire celles qui ont, n'est-ce pas, la confiance de notre population. Parce que si l'élément confiance est érodé, ça érode l'efficacité et nous entrons dans un cycle de pauvreté. Les élections sont faites pour transformer la qualité des institutions et amener, n'est-ce pas, la production d'une transformation positive dans la société. Donc, si nous n'avons pas la légitimité, eh bien, nous tirerons les conséquences qu'il faut et nous dirons que merci, nous n'avons pas fait beaucoup de travail.
Merci, monsieur le vice-président de la CENI, Jacques Ndjoli. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Irung, Samuel Kachak, que sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci à Guy Manzangou qui est à la technique, au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. 28 de programme sur la fréquence de la paix.